Alors, les fondements énergétiques de la démocratie. Marc Ely. Les sources d'énergie sont-elles porteuses de modèles politiques? Oui, répond Timothy Mitchell, dans un essai stimulant sur les soubassements énergétiques des démocraties contemporaines. Pardon, je pensais qu'il y avait des virgules. Le passage du charbon au pétrole au cours du XXe siècle a érodé le potentiel de mobilisation de la classe ouvrière et consacré le pouvoir à des experts. Ça, c'est réel, ce truc-là, et je pense qu'on n'en parle pas non plus assez. Comment les énergies nous ont affaiblis niveau force révolutionnaire, et notamment, par exemple, il y a André Gorz qui parle bien de ça avec l'idéologie de la voiture. Comment la voiture, en fait, nous a aussi complètement dépossédé en fait notre pouvoir révolutionnaire. Parce que depuis qu'on a la voiture, bah, on peut aller en week-end, on peut aller à droite à gauche, et du coup, on se dit que bon, bah, la lutte, on verra plus tard. Tu connais la démocratie liquide? Pas du tout, Pingouiné. Enfin, quoique si, je crois que j'ai déjà entendu parler. Mais j'ai pas lu plus que ça. Janvier 2012. L'Iran menace de fermer le détroit de Hormuz. Casus belli, les États-Unis envisagent de répondre par la guerre si la République islamique met sa menace à exécution. Ni la répression intérieure du régime contre les mécontents, ni même son programme nucléaire n'ont ces dernières années amené réaction aussi belliqueuse. La raison en est connue. Putain, j'arrive pas à lire, désolé. Un quart du pétrole mondial transite par les détroits. Or, l'économie mondiale dépend du pétrole pour sa survie. L'histoire récente l'a montré plus d'une fois. Quand le pétrole est en jeu, c'est l'escalade, au moins verbale, souvent militaire. Ah bah, on l'a vu, hein, regardez là, donc c'est pas le pétrole, mais le gaz avec comment ça s'appelle? Poutine. En vrai de vrai, là, c'est en train de s'escalader, escalader, escalader. Et il y a aussi une force, donc il n'y a pas que les énergies, mais les énergies sont intimement liées au conflit qu'il y a actuellement avec l'Ukraine, la Russie et notamment les États-Unis. Comment sommes-nous devenus si dépendants aux hydrocarbures? Justement, là, c'est la difficulté pour la démocratie de se maintenir au sein même de celle-ci, le principe et la possibilité de la critique, aussi constructive que ça soit, ça reste une fragilité dont ne souffle pas forcément les régimes autoritaires. Dont ne souffrent pas vraiment forcément les régimes autoritaires. Oui, c'est vrai, t'as raison, Actiseka. C'est vrai que bah, on l'a bien vu avec les élections, avec tous ces mouvements où les fachos, quand les fachos ont une idée en tête, ils sont prêts à utiliser toutes les méthodes pour gagner. Et ce que nous, là où on est et faible et puissant, c'est que c'est vrai que la démocratie, qui est un truc qui est censé bah, être entre guillemets éthique, bah, du coup, il y a des vrais angles morts, des vrais talons d'Achille, alors que bah, les fachos, les autoritaires, eux, s'en battent les couilles, ils y vont à fond, quoi. Ouais, c'est intéressant ton point de vue. Tommy Mitchell, politiste et historien spécialisé du Proche-Orient à l'Université de Columbia, signe avec Petrocratia, un court essai d'histoire globale bien documenté et stimulant qui éclaire la corrélation entre sources d'énergie, système énergétique et système politique. L'auteur propose ainsi de suivre la piste du carbone pour décortiquer les liens unissant le surgissement et l'hégémonie des hydrocarbures. Et la naissance de la démocratie de masse et de l'impérialisme du 19e et 20e siècle. Ça a l'air hyper intéressant d'avoir des datas historiques là-dessus. Hop là. Il s'intéresse particulièrement aux charnières de l'histoire énergétique contemporaine. Le passage des énergies renouvelables au charbon au 20e siècle, puis le passage du charbon au pétrole au siècle suivant. Il montre comment les propriétés physiques réceptives du charbon et du pétrole ont facilité la naissance des démocraties sociales modernes et l'impérialisme colonial et néocolonial. Donc voilà, ouais, ça paraît logique. Et il y a aussi c'est Jean-Baptiste Fressos qui parle bien de ça. Il a fait une interview à Elucide qui est intéressant. C'est aussi que le passage de énergie telle à une autre énergie, c'est pas vraiment la réalité. C'est plutôt un ajout d'une nouvelle énergie. En fait, on ne passe pas d'une énergie à une autre en mode d'un coup c'est le changement et basta. Très souvent. On ajoute une énergie et en fait finalement l'ancienne énergie est toujours utilisée quasiment à égalité. Si vous regardez à l'heure actuelle le charbon, le pétrole et le gaz, et même le renouvelable, et ben en fait c'est pas parce qu'on augmente le renouvelable qu'on va diminuer les autres énergies. En fait on va augmenter tout d'un coup. Et ça c'est quelque chose que des fois on a un petit peu oublié dans notre discours global. Merci beaucoup pour le solo, moi le plus beau, le plus fort, incroyable. À cette interrogation historique sur les ruptures introduites par l'exploitation de nouvelles ressources énergétique, il ajoute l'analyse de plusieurs connexions entre les hydrocarbures et ce qu'il appelle souvent par antithèse, pardon, la démocratie. Nous dirons le pouvoir. Ouais, je préfère le pouvoir. En vrai, je préfère le pouvoir, ouais. Parce que pour le coup, là, c'est vraiment une question de pouvoir. Petrocratia se transforme alors en laboratoire d'idées. Mitchell teste sur le lecteur ses intuitions sur la construction de cette nébuleuse où se rencontrent pétrole et politique et qu'il nomme Pétrocratie. Certaines sont convaincantes, d'autres moins. Trillon. Ah, ok, attends, c'est hyper intéressant. C'est un peu un ouvrage en mode philosophie, en mode réflexion. C'est hyper intéressant ce genre d'ouvrage. En mode, t'as pas une idée, tu vois. C'est, t'as plein d'idées différentes et tu essayes de piocher en mode quelle est la plus pertinente. Alors, du coup, la première. Charbon et démocratie sociale en Europe. La première thèse de Mitchell est que le passage au charbon, en réorganisant les territoires, a permis l'émergence de mouvements politiques de masse. Ok. Il résume la transition énergétique de la biomasse à l'énergie carbonée non renouvelable au XIXe siècle. Ce remplacement a permis une formidable concentration spatiale et temporelle de la production d'énergie. Vers 1820, en Grande-Bretagne. Ok, d'accord, oui. L'extraction du charbon produit autant d'énergie que l'exploitation de forêts sur l'équivalent de la surface du pays. Donc ça, on est d'accord, le Grande-Bretagne qui a vraiment, du coup l'Angleterre, qui a clairement grandi grâce au charbon. La surface virtuelle ainsi libérée par le charbon double 3 fois avant la fin du siècle. Cette transformation s'est faite au détriment des peuples colonisés et de leurs territoires, mis en coupe réglée pour produire à l'intention des métropoles des cultures industrielles et alimentaires. Pourtant, le lien entre concentration spatiale permise par le charbon et colonisation n'est pas évident, il est même contre-intuitif. Oui, je suis clairement. En fait, c'est ça que je suis d'accord avec lui. Je ne comprends pas le rapport. Dans un premier temps fort de l'essai, Mitchell montre comment, à partir des années 1880, l'organisation de l'extraction et du transport du charbon a placé mineurs et cheminots dans la position inédite de pouvoir entraver la production et les flux pour faire pression sur le patronat et le gouvernement. Ok, c'est intéressant ça. Ce qui fait la force du charbon, sa densité énergétique qui permet d'accumuler et de transporter facilement une quantité d'énergie très nettement supérieure aux énergies renouvelables utilisées jusque-là, a paradoxalement été la faiblesse des patrons et la force des ouvriers dans les grandes grèves qui ont transformé les pays industrialisés entre le dernier quart du 19e siècle et les années 1950 au 20e siècle. Ouais, en vrai, ça paraît, en fait, si, ça paraît logique. Vu que t'es plus éparpillé dans des forêts, mais que t'es tous regroupés dans une mine, avec tout en gros un système d'acheminement qui est très commun, en fait, les ouvriers se retrouvent, peuvent discuter ensemble, et du coup, là, tu peux avoir la montée de. D'idées politiques qui grandissent. Salut à toi, l'ex-tutor. Incroyable ton pseudo. Du coup, oui, c'est intéressant là-dessus. La concentration et la circulation du charbon nécessaires à l'industrie continuaient d'un point faible. Constituer un point faible, pardon. De l'économie capitaliste. Le nombre, ouais, c'est ça exactement. En fait, le nombre s'est retrouvé. On s'est retrouvé de plus en plus gros et grand en tant qu'ouvrier. Et du coup, on a pu comme ça émerger. C'est intéressant comme vision. Comment la concentration d'énergie cinétique dans la locomotive la rend vulnérable à la moindre perturbation et risque de mettre en péril tout l'approvisionnement en charbon? Les cheminots comprirent la valeur du sabotage pour paralyser ou menacer de paralyser la vie économique. Ok, d'où le début des grèves, le côté destruction d'outils. Et ça, c'est pareil, hein, c'est comme dans les canuts, enfin, en gros, les factories, quand il y a eu un mouvement de grève en Angleterre. Un des trucs qui a été assez novateur à ce moment-là, c'était de détruire l'outil de travail pour mener justement des grèves. Comme disait Méluge, donc ouais, c'est ça exactement le nombre, ouais, de ouf. Étant donné l'importance croissante du charbon pour l'économie, les grèves des mineurs, dans la Ruhr en 89, en Angleterre en 89-90, forcèrent les dirigeants à des compromis. Les gouvernements de Bismarck et de son successeur passèrent les premières lois sociales. Ok! Les Luddites, ah ouais, c'est Luddites, pardon, c'est pas les Canuts, pardon. Les Canuts, je crois que c'est à Lyon. Bref, la peur d'une ruineuse grève générale fit plier les gouvernements qui considèrent aux ouvriers droit de vote, syndicalisme et droit de grève, avec finalement l'arrivée du gouvernement travailliste et sociodémocrate au pouvoir. Ok. Ça, c'est intéressant, comme quoi, tu vois, le charbon a été un élément révolutionnaire, alors qu'à l'inverse, le pétrole a été un élément plutôt contre-révolutionnaire. Mitchell conclut son chapitre consacré au charbon par une affirmation provocatrice. Les travailleurs se trouvèrent progressivement interconnectés, non pas tant par les liens tenus d'une culture de classe, d'une idéologie collective ou d'une organisation politique, que par la quantité toujours plus importante d'énergie carbonée qu'ils extraient, chargeaient, transportaient, enfournaient dans les moteurs et exploitaient. Oh, en vrai, c'est intéressant ça. Bon, je suis pas forcément d'accord avec cette tech-là. Mais c'est intéressant de prendre en compte que. Après, est-ce que ça fait pas partie de la classe sociale en fait? Bah, en vrai, tu vois, ça, on peut rebondir sur le terme de géoclasse. Parce que du coup, je trouve que c'est intéressant de se dire que c'est pas forcément la classe sociale qui fait que t'es uni, même si bon, ça reste des ouvriers. Mais par contre, au niveau de géoclasse, bah, vu qu'ils sont tous liés aux mêmes matériaux qui les exploitent, bah, du coup, il y a une espèce de d'unification dans la lutte. Donc c'est intéressant, tu vois. Le grand soir, notre espoir, le pire cauchemar. Ouais, après, moi, le grand soir, j'ai un peu de mal en vrai. Le nombre et l'espace, parce que le nombre dans les espaces de sociabilisation et d'organisation politique, c'est beaucoup plus difficile. CF 2022. Ouais, ça c'est réel, Dugubor. La vraie problématique à l'heure actuelle, c'est les espaces. On n'arrive pas à gérer les. Enfin, à s'accaparer les espaces. Les espaces sont trop grands, trop espacés, et on se fait baiser à ce niveau-là. Très bonne réflexion, Dugubor. La force collective. Attendez, je vérifie, pardon. Hop. Oui, nickel. La force collective des travailleurs reposait moins sur la conscience de classe ou l'organisation politique que sur la concentration des flux énergétiques. Bien sûr, on peut citer de nombreuses grèves de mineurs qui se soldèrent par des échecs, dans la RUR en 1912 par exemple, ou des grèves d'ouvriers couronnées de succès dans les secteurs autres que le charbon, Dockers londoniens en 89. On peut également considérer que Mitchell, citant essentiellement des représentants de cla des classes possédantes effrayées à la perspective d'une grève générale, surestime à la fois le pouvoir des ouvriers et le caractère organisé des grèves. Ouais, c'est intéressant comme critique, ça. J'aime bien cette critique-là. En revanche, il a sans doute raison de souligner le lien rarement mis en évidence entre les modes de production et la géographie du charbon, d'une part, et d'un certain pouvoir de négociation effectivement gagné par la classe ouvrière, et dont les conséquences politiques furent immenses d'autre part. J'aime bien cette. En vrai, je trouve hyper intéressante cette thèse sur le charbon. Après, les ouvriers chinois vivent dans des villes ouvrières à l'ancienne, il n'y a pas de grève pour autant. Salut Ostrogi. Ouais, donc tu vois, ça veut dire que il faut quand même plusieurs angles, il faut plusieurs points importants pour mener une grève ou mener une lutte. Et même si t'es uni, même si t'es regroupé dans un même lieu, bah, la lutte ne prend pas. Après, ça peut être aussi le pouvoir, tu vois. C'est vrai qu'il faut garder en tête que le pouvoir chinois est quand même relativement aliénant et hyper violent, tu vois. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là. Oui, l'auteur tombe un peu dans la détermination énergétique. Ouais, mais c'est bien le contre-discours de l'article, il est hyper intéressant pour essayer de basculer ça. Tu le captes pas comme mobilisateur d'imaginaire et d'affect, c'est pour ça. Ouais, Cyril, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que j'ai un peu. J'essaie. Enfin, je suis peut-être un petit peu trop. Enfin, pas réaliste, mais. J'y crois peut-être pas assez, ouais, c'est pas faux. L'avantage de la globalisation se trouve en partie là-dedans. Si on fait éclater la chaîne de production, alors le risque de blocage diminue. Attends, si on fait éclater la chaîne de production, alors le risque de blocage diminue. Attends, le risque de blocage diminue. J'aurais dit l'inverse, moi. Ça veut dire que les enfants mineurs d'uranium au Niger et au Kazakhstan sont surpuissants. Ouais, c'est pour ça que ça reste. Voilà, en fait, c'est important de garder en tête que oui, la réunion des mineurs et compagnie, c'est une chose qui permet la lutte. Mais encore une fois, ça, c'était. On peut pas. Attention à ne pas non plus imaginer quelque chose qui s'est passé en 1910 et en 2022, tu vois. Enfin, les modes de vie sont différents, les structures sont différentes, les politiques sont différentes. Tu ne peux pas dire bah, ce qui s'est passé en 1910, ça a fonctionné, du coup en 2022, ça va fonctionner. Non, tout est à repenser. Par contre, oui, ce qui est intéressant de garder en tête, c'est que oui, le collectif est une force, est puissant, le regroupement social et de l'espace est très puissant. Par contre, c'est plus suffisant. Il faut peut-être d'autres choses, il faut des nouvelles. Comment dire? J'ai pas le terme, ça me casse les couilles. Des nouveaux angles d'attaque. Mais la prise en compte des propriétés matérielles des énergies comme facteur dans la lutte des classes, c'est vraiment très important d'un point de vue matérialiste. Ouais, je suis d'accord, Rizmatic. Et ça, encore une fois, toi, c'est des choses. Et c'est là où je vois vraiment la puissance de la philosophie. C'est des choses que je n'avais peut-être pas autant pris en compte, même si je voyais le côté. Je sais que le pétrole a un impact sur la société, mais tu vois, le fait de dire que le charbon a peut-être permis l'émergence de gains sociaux, et à l'inverse, le pétrole a peut-être permis justement d'avoir un pouvoir contre-révolutionnaire. C'est des choses qui sont ultra intéressantes pour comprendre la situation. Et quand je dis le pétrole, pouvoir contre-révolutionnaire, je pense à l'idéologie de la bagnole de Gorz. Je sais pas ce que lui pense dans l'article. Si une grève a lieu en France avec toute la production en France, t'es 100% bloqué, pas si proche d'éclater à l'international. Ah oui, d'accord, pardon. Oui, bien vu, Cyril. D'accord. Oui, pardon, j'avais pas compris. Oui, bien, évidemment. En un sens, il risque le blocage est favorisé parce qu'on multiplie les points chauds, mais en éclatant la production, tu limites la discussion possible entre les ouvriers. D'accord, oui, évidemment, t'as raison. Oui, donc c'est vrai, en fait, peut-être qu'aussi. Ça, c'est intéressant. C'est vrai que peut-être aussi les captés se sont autant réticents à détruire les multinationales, et, enfin pas à détruire, mais à revenir sur un protectionnisme, parce que du coup, c'est du coup retrouver un vrai force collective et peut-être même retrouver du syndicalisme, retrouver de la puissance ouvrière, etc. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a vraiment favorisé le capitalisme mondialisé, quoi. Alors c'est peut-être un truc que vous avez en tête depuis longtemps et que moi je découvre, hein. Niquez-vous, je suis un normie, moi. Quand le Qatar qui s'engage dans le pire. Oula, quoi? Je débarque un peu, désolé, c'est quoi le sujet? C'est la merde, c'est quoi? Le fondement énergétique de la démocratie. Fondement énergétique de la démocratie. Après, ce que pourrait objecter à l'auteur, c'est que le pétrole a aussi nourri le fordisme des années 50-70, qui a marqué un peu l'apogée du mouvement ouvrier. Oh ouais, c'est intéressant comme texte, ça. Merci, Rizmatic. T'as raison, c'est pas faux. Bah attends, je vais le noter là et puis j'irai fouiller ça. J'irai voir si on pourrait le rajouter après l'argument. Hop là. D'où l'international ouvrière, bien sûr. Bah après, moi, je suis vraiment pour ça. Hein. Ouvrez tous les pays du monde, réunissez-vous. Ce qui rendait fou avec le charbon, c'est que tu voyais de ton vivant toute la ville en mourir dans les tabaraques à 15 ans sans eau courante. Ouais, de ouf. Bah, même là, on le voit, en Chine, il y a beaucoup de problèmes de santé à cause de la houille. Hein. Après, les pétroliers ont conscience de leur intérêt en commun. Ils ont créé l'OPEP, ils font pression avec ça. Oui, bien sûr, évidemment. Non, j'ai pas vu Ornstein, non. Bref, à la suite. Hop là. Le cœur de la démonstration de Petrocratia, contenu dans le second chapitre, est que l'éclosion démocratique permise par le charbon via la médiation ouvrière et ce n'est pardon. Voilà, oui, via la médiation ouvrière ne s'est pas reproduite à l'âge du pétrole, étant donné les différentes configurations physiques de ces deux hydrocarbures. Donc ça, on est d'accord. Pour Mitchell, les types d'organisation du travail permis par la production et la logistique des transports du pétrole expliquent pour une part l'échec des ouvriers de cette filière à peser sur la vie politique à l'ère de la high energy economy. Le potentiel démocratique du pétrole est moindre que celui du charbon. D'abord, il faut moins d'ouvriers pour le tirer de terre. En surface, les ouvriers sont plus contrôlables qu'au fond de la mine. Oh, c'est intéressant comme texte, ça, j'aime bien. Ensuite, les éoéoducs, créés spécialement pour amoindrir la force de revendication, réduisent le nombre de points de rupture de charge où les grévistes peuvent concentrer leur action. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Je suis clairement d'accord avec cette position. Plus léger, plus fluide, plus concentré, le pétrole se transporte encore plus facilement que le charbon. Le transport maritime est peu coûteux et pratiquement exclu du droit du travail. Enfin, Mitchell compare le réseau de transport du charbon à une ramification dendritique possédant un seul canal principal, alors que celui du pétrole ressemble à une grille électrique où les chemins sont souvent interchangeables. Ainsi, si un axe est coupé, il est plus facile de le contourner. Ok, c'est intéressant. C'est ce que vous disiez par rapport aux angles d'attaque. Si tu casses un lieu, c'était tellement enfin, dispersé que du coup, bah, tu peux quand même te connecter à droite à gauche. C'est hyper intéressant comme ça. Pour les ouvriers du pétrole, ces caractéristiques rendent peu efficace l'action collective. Au début du XXe siècle, les sites de forage sont à l'écart des centres industriels et souvent mal connectés. Les grèves lancées avant la Première Guerre mondiale en Galicie échouent. À Bakou en 1905, par contre, les ouvriers rencontrent de vrais succès et contraignent les entreprises à la négociation, précisément parce que la production est concentrée sur quelques hectares près d'une grande ville et que le pétrole est déjà une énergie importante pour le transport maritime et ferroviaire de l'Empire russe. Mais c'est une exception. Ok, donc là, vous voyez, qu'on est bien sur le côté que l'espace, il y a un côté géographique plus proche, du coup, la lutte, elle peut être menée plus facilement. On retombe sur ce truc-là. Alors que les ouvriers avaient su tirer parti du potentiel démocratique du charbon pour obtenir des droits politiques et sociaux, dans le cas du pétrole, ce sont les managers de grandes compagnies qui ont pu profiter des caractéristiques de cette énergie pour prévenir tout mouvement de grève. Outre le transport maritime et les oléoducs, les compagnies pétrolières, plus globalement, ont poussé à la consommation et à la dépendance du pétrole. Le plan Marshall a permis aux États-Unis de convertir les économies européennes au pétrole. Le modèle américain de management et de consommation, exporté à la même occasion, étant aussi une réponse aux mobilisations ouvrières de la bataille du charbon d'après-guerre. Attends, là, j'ai pas tout compris. Le plan Marshall a permis aux États-Unis de convertir les économies européennes au pétrole. Donc ça, on est d'accord. Le modèle américain de management et de consommation, exporté à la même occasion, était aussi une réponse aux mobilisations ouvrières à la bataille du charbon d'après-guerre. Ah, d'accord, ok. Et comme quoi, vous voyez, les États-Unis, hein, le plan Marshall, alors pareil, plan Marshall, je connais pas assez malheureusement. C'est un truc que j'ai pas trop suivi, genre même politiquement, je sais pas trop, je sais que ça a eu un impact, hein, mais je connais pas du tout assez. Et comme quoi, bah, là, apparemment, ça a quand même beaucoup chamboulé le truc économie européen. Là, je découvre. Hein. Un modèle de vie riche en pétrole, voilà ce que les pétroliers réussirent à imposer aux sociétés développées afin d'augmenter la demande et de faire des revendications sociales. Oui, donc globalement, ça, le côté consumérisme, quoi. Plan Marshall égale prémassif des USA pour reconstruire l'Europe. Ah, d'accord, donc du coup, bah, importation aussi du modèle social états-unien. Est-ce que c'est à partir du plan Marshall qu'il y a eu l'espèce d'augmentation du mode de vie pavillonnaire ou pas du tout? Plan de relance économique et reconstruction. Ouais, donc du coup, je pense que le truc pavillonnaire est venu à peu près de ce plan-là, à mon avis. Ce qui paraît pas déconnant si c'est l'émancipation du pétrole, donc de la voiture, donc des routes, etc. Donc bah, le côté centre-ville, périphérie, etc. Ouais, ce qui est pas déconnant. Je sais pas si c'est connecté ou pas, mais ça sera intéressant de savoir. Du côté de l'offre, la compagnie pétrolière ont fait main basse sur les ressources mondiales. Ici, Mitchell est sur son terrain, celui des politiques coloniales et néocoloniales menées par les puissances du Proche-Orient, au Proche-Orient, pardon. Entre les coups d'État montés par la CIA, Iran 53, renversement de Kamal Jublat au Liban et la Syrie, et écrasement de grève par les compagnies et les colons, Palestine en 36-39, Arabie Saoudite en 56, il s'agit toujours d'interdire que les ouvriers ne deviennent la force politique qu'ils étaient devenus en Europe avant-guerre. Ouah, vraiment les colons. Hein. Non, jusqu'en 1980, on a construit tous les que des HLM, d'accord. Et c'est encore ce qu'on a fait dans des pavillons résidentiels. C'est encore après qu'on a fait des pavillons résidentiels. D'accord, ok, je savais pas. Je pensais que c'était beaucoup plus tôt que ça, tu vois, les pavillons résidentiels. Je pensais que c'était justement, ça a été importé en mode Trente Glorieuses. Enfin, pas Trente Glorieuses, mais. Bah, si, Trente Glorieuses, ouais. Je pensais que c'était importé à partir de ce moment-là. Et vous voyez, comme quoi, ça, c'est un truc de ouf. Hein. La puissance coloniale dans les pays du Sud, c'est vraiment détruire la force ouvrière de tous les pays et les rendre encore plus faibles. C'est vraiment les colons à hein, niquer vos mères. Si cette intentionnalité ne fait aucun doute, la démonstration de l'auteur n'en est pas pour autant renforcée. En effet, le cas moyen-oriental montre que les ouvriers pouvaient être très efficaces dans l'action gréviste en attaquant des pipelines et en bloquant des ports. Ni les caractéristiques physiques du pétrole décrites plus haut, ni les agencements productifs et logistiques qu'elles autorisaient ne semblent avoir pu freiner les ouvriers révoltés par les conditions de travail et l'exploitation coloniale. L'échec systématique de ces revendications tient bien plutôt à l'utilisation tout azimut de pratiques coloniales répressives impossibles en Europe et aux conflits géopolitiques Est et Ouest qui autorisait à anéantir toute validité syndicaliste sous couvert d'empêcher le basculement de la région dans l'escarcelle de Moscou. Ok, ah c'est intéressant ça. Comme quoi, vous voyez, la géopolitique, hein, c'est un truc de ouf. Hein. Alors je sais pas si sa vision de l'histoire elle est correcte, moi en tout cas elle me parle. Et c'est vraiment là où tu te rends compte que ouais, la géopolitique dans le monde entier, ça a eu un chamboulement de ouf. Et c'est des choses qu'on, tu vois, qu'on nous apprend peut-être pas assez en cours. Et du coup, il faut réussir à s'instruire petit à petit. Et voilà, si t'es un minimum matérialiste, bah, pour comprendre un peu l'histoire du monde, il faut comprendre l'histoire des autres pays du monde. Et pour comprendre tout ça, bah, il faut réussir à avoir toutes les connexions. Et avoir des penseurs comme ça qui réfléchissent à ce genre de réflexion-là, à la connexion des énergies et de la démocratie, permet aussi de voir que bah, voilà, tous les capitalistes, etc., sont liés à tout ça. Et tu peux commencer à avoir des connexions qui se mettent en place. Vraiment trop cool, hein. Merci à celui qui m'a partagé l'article, hein. Vraiment trop bien. Ah bah tiens, les experts imposent leurs lois. Donc là, on va pas en parler d'André Gorz là. Dans le troisième et dernier chapitre, Mitchell poursuit son exploration de la pétrocratie, cette constellation en se rencontrant où se rencontrent pétrole et pouvoir, en décrivant le lieu entre le pétrole et la monnaie. C'est grâce au pétrole que le dollar chasse le livre sterling comme monnaie des échanges internationaux, car le dollar est adossé au pétrole. L'accord initial entre la Grande-Bretagne et les États-Unis pour contrôler les quotas et les prix disparaît dès 1945. Roosevelt obtient le monopole américain sur le pétrole proche-oriental en échange de l'écrasement du militantisme ouvrier. Waouh, c'est vraiment une dinguerie. Hein. C'est là où tu vois vraiment les capitalistes qui sont prêts à tout pour détruire. Quand le monde gronde contre les bourgeois, hop, vite un ennemi de la paix internationale. Ouais, c'est ça réel, Cyril. C'est par les flux que ce monde se maintient, bloquons tout. Ça, pareil, la politique des flux, j'ai un article, faut que je lise un article là-dessus, on le lira en live. Hein. Toute cette question des flux, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Et apparemment, c'est des concepts philosophiques qui sont assez importants, notamment bah, dans les 1000 plateaux. Mais je ne maîtrise pas du tout les flux. Autour du développement du pétrole comme principale source d'énergie, sont nées de nouvelles expertises économiques dans l'après-guerre. Le keynésianisme et le néolibéralisme. Cette expertise constitue l'économie ou le marché comme secteur d'action publique et de savoir expert. Reprenant les analyses qu'il avait développées dans son ouvrage remarqué, Rule of Expert, Mitchell affirme que l'expertise permet de soustraire les domaines de l'activité sociale au contrôle démocratique. Et ça, je suis clairement d'accord avec cette position. Je l'aime beaucoup, cette position-là. C'est un peu, je pense, qu'on peut rebondir sur l'idée de Gorz, qui était clairement contre la technocratie et tout ce qui était bureaucratie. Et lui, il voulait vraiment qu'on soit de moins en moins expert et qu'on puisse, en gros, que chacun puisse avoir accès aux connaissances énergétiques. Plus comme pensée logistique, gouvernement. Ouais, je l'ai mis de côté, Digibord. Faut que je le lise. Hein. C'est juste que j'ai pas encore pu le lire, mais. Mais faut vraiment que je le lise ici. On voit que ça lit le comité invisible ici. Incroyable. Ah, les gros cerveaux qui se connectent. J'aime ça. Les mis communs pour faire passer le fascisme. Oui, bah les arbres. Ouais, bien sûr. Les arbres. Bien vu, Einstein. Tu vois, je suis trop pur pour ça, putain. Moi, j'ai dû réfléchir pour comprendre le truc. Le rapport avec le pétrole est ici ténu. L'auteur voit dans l'apparition de l'économie la validation d'un modèle de croissance illimité reflété par un nouvel indicateur, le PIB. Or, le pétrole se prête bien à ce modèle, car il est disponible en quantité apparemment illimitée et son prix diminue jusqu'en 73. On opposera à Mitchell qu'il n'y a là pourtant aucun lien nécessaire, mais une simple analogie entre la croissance illimitée à laquelle invite le PIB et les énormes ressources d'une énergie peu chère. D'ailleurs, le charbon de l'ère de la démocratie de masse était aussi disponible en énorme quantité et l'est toujours. Ouais, je suis pas forcément d'accord. On opposera. Attends, pourtant aucun lien nécessaire. Moi, je suis pas forcément d'accord hein, parce que regardez, là, le pétrole est en train d'augmenter et en vrai, on se rend compte que le pouvoir révolutionnaire est en train de se mettre en place. Du coup, je suis pas d'accord. Pour moi, le coût du pétrole et l'accessibilité au pétrole, justement, permet de calmer la population et permet d'endormir le peuple. Donc, je suis pas convaincu. Là, je vais mettre que je suis pas trop convaincu. Dans une réalité parallèle, la planète est peuplée de blancs et le fascisme est un outil pour combattre les arbres dans l'espace. Un exemple de soft power, c'est quoi ça? Oh, bon, vas-y, je regarderai après. Hop. On va finir l'article. Mitchell termine sa démonstration sur la crise du dollar en 67-74. Les compagnies pétrolières auraient alors construit des concepts comme la fin du pétrole et l'environnement pour manipuler les cours du pétrole à la hausse. Ah ouais? Bon, ça, je veux fouiller ça. Ainsi, l'écologie politique qui apparaît à ce moment aurait été copropulsée par des pétroliers pour damer le pion de l'énergie nucléaire. Ouais, je suis pas convaincu, frérot, là, vraiment, ça vrille un peu complotisme, hein. Malheureusement, Mitchell n'apporte aucun élément tangible pour étayer ses insinuations sur ces importantes questions. Ah, je suis vraiment pas convaincu. Hein. A-t-il ici à l'esprit les critiques répétées contre le plus célèbre rapport du Club de Rome, The Limit to Growth, paru en 72? Le rapport, en effet, évoque un pic pétrolier vers la fin d'un millénaire. Et d'aucuns continuent de voir dans ce document pourtant mesurer un monument du catastrophisme. Mitchell y fait pas allusion. Alors qu'il a tendance à idéaliser la grève démocratique de l'ère du charbon, l'auteur exagère l'influence des groupes d'experts à l'âge du pétrole. Ouais, je suis un peu d'accord. Là, vraiment, je trouve qu'il a un peu vrillé en mode un peu complotiste. Alors, la tech est intéressante, tu vois. Mais, je veux dire, quand tu es... faut quand même des preuves, tu vois. Là, la tech, elle est intéressante, mais alors, faut que tu dises clairement. Bah là, je sors ça de mon cul, voilà ce que j'ai en tête, tu vois. Là, ça fait un peu vriller complotiste. Ça doit être parce que les écolos ciblent le nucléaire, ce qui favorise les pétroliers indirectement. Oui, en vrai, c'est pour ça, la tech n'est pas inintéressante. Et je suis d'accord, hein, si j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je trouve que c'est une... On n'évoque pas assez les problèmes énergétiques globaux. Mais, alors soit c'est l'article qui est mal écrit, il faudrait lire dans le livre actuel, peut-être que c'est mieux expliqué. Mais là, il y a un truc qui me convainc pas, en tout cas dans l'article. Il faudrait voir le livre pour voir si ça n'a pas été juste mal tourné. On touche avec ce dernier chapitre aux limites de la méthode que l'auteur met en place dans son essai. Il teste les liens imaginables entre pétrole et pouvoir. Oui, voilà, après, ça a l'air d'être plutôt un espèce d'essai de réflexion. Donc, faut aussi le comprendre, ça. Mais clairement, ça fait un peu complotiste. Faudrait aller lire le livre. Ouais, voilà. Après, si c'est un espèce d'essai de réflexion, comme tu dis, il y a une vraie réflexion de se dire que, en gros, il y a une espèce d'épouvantail qui s'est mis en place où le fait d'avoir visé le nucléaire, Mais derrière, le pétrole a pu grandir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dénoncé. Quand vous vous souvenez quand je disais, par exemple, que on visait les footballeurs, comme ça, bah, les capitalistes qu'il y a derrière les footballeurs peuvent continuer de s'enrichir. Bah, je le vois un peu de cette manière-là, qui n'est pas inintéressante. La tech est vraiment intéressante. Mais la manière dont là c'est écrit, ça ne me convainc pas. Bizarre, sa tech, on aurait pu au contraire faire un parallèle avec la démocratie au charbon. Mais à une échelle internationale, plutôt qu'une lutte des classes, on a une lutte internationale avec une conscience de classe entre pays producteurs de pétrole qui font grève en 73. Ouais, c'est intéressant. Après, putain, je connais pas assez l'histoire, c'est le problème. C'est intéressant d'un tech, mais malheureusement, j'ai pas assez de data pour m'imaginer, enfin, visualiser le truc. Mais merci, quand j'aurai plus d'infos, je pourrai voir le rapprochement. Ce faisant, il installe des constellations de phénomènes aux liens hypothétiques souvent ténus. Il procède par rapprochement, concomitance et analogie. Oui, voilà. En gros, c'est un mec qui essaie de trouver des réflexions sans forcément avoir des ressources. Cela donne des intuitions intéressantes. Par exemple, le fait que pour écraser les grèves dans le secteur du pétrole, les gouvernements et les capitaines d'industrie ont instrumentalisé les conflits ethniques aussi bien à Bakou en 1905 qu'en Palestine dans les années 1930. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est une tech qui est plutôt, qui me paraît pas débile, tu vois. C'est pour ça que c'est intéressant comme mode de construction. Les connexions tout azimut fonctionnent parfois moins bien. Le lien entre hydrocarbures et mobilisation politique serait illustré par le différentiel de connaissances sur le fonctionnement de leur filière chez les mineurs et les ouvriers du pétrole. Oh, mais en vrai, tu vois, ça fonctionne moins bien, mais c'est hyper intéressant. Les mineurs autonomes au fond de la mine possédaient une expertise conséquente et auraient été plus à même d'exploiter le réseau de production contre les patrons. Ah, bah ça. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que pour moi, ça, c'est la tech de Gorz. Gorz, c'est ce qu'il explique. Gorz, en gros, il explique que les technologies verrous nous posent problème parce qu'en gros, il y a de plus en plus d'experts. Les experts, ce sont dans les mains, enfin, en gros, viennent des classes sociales les plus élevées. Donc, c'est une reproduction sociale d'élite. Et en fait, les ouvriers restent à leur place en tant qu'ouvriers et n'ont pas accès à cette expertise. Et du coup, ne peuvent pas s'accaparer les outils de production. Donc là, je trouve que la tech, en tout cas moi, de ma lecture gorzienne, je la trouve très pertinente. Dans le secteur pétrolier, au contraire, la complexité du raffinement du pétrole aurait bénéficié non pas aux ouvriers, mais aux compagnies. Devenues créatrices de savoir, elles auraient pu, via leur officine d'expertise, manipuler consommateurs et écologistes. Alors, ouais, là où je suis pas convaincu, c'est même pas manipulateur ou écologiste, c'est surtout manipuler, enfin, permettre l'émergence d'une classe sociale éduquée. Élite, et en fait, on peut le voir dans les universités. Qui c'est qui est toujours présent pour aller récupérer des étudiants? Bah, c'est EDF, c'est Total, etc. C'est ce genre de métiers qui sont mis en avant aux universités. Et qui c'est qui avance le plus haut dans les universités? Bah, c'est ceux qui n'ont pas besoin de travailler pour être en études. C'est ceux qui n'ont pas trop de difficultés. C'est globalement des personnes blanches. Voilà, CSP+ et compagnie. En tout cas, issus de cette classe sociale-là. Et donc, du coup, bah, c'est, tu vois, moi, ce qui me pose problème, c'est manipuler consommateurs et écologistes, c'est surtout faire monter une classe sociale éduquée pour perdurer tout ça, tu vois. Donc, la réflexion de base est intéressante, mais l'intuition va pas assez loin à mon goût, en tout cas. Mais hyper, en vrai, il est cool, le bouquin. Je pense qu'il est hyper intéressant à lire. C'est en effet la manipulation qui fait le lien. Chez Mitchell, entre les événements et processus concomitants, mais faiblement reliés. Ouais, et tu vois, manipulation, moi, le problème, c'est que comment tu mesures ça dans le réel? Genre, comment tu fais pour mesurer l'impact d'une manipulation? Genre, déjà, on l'a vu avec Analytica, avec Trump. Bon, bah, on peut mesurer, mais à combien? Tu vois, c'est pas mesurable, ce genre de choses. Genre, c'est compliqué de dire, bah, ça a eu un impact aussi énorme. Le lien entre l'émergence de l'expertise économique et l'hégémonie du pétrole ne paraît pas évident. Mitchell dit alors que les cabinets d'expertise, aux ordres des pétroliers, manipulent l'opinion publique, comme les experts économiques confisquent la démocratie. Ah, d'accord, dit comme ça. Ah, ouais, si, en vrai, ouais, si, c'est pas déconnant, dit comme ça. Manipule l'opinion économique, ouais, avec des pubs et compagnie, ouais. L'opinion publique, ouais, avec les pubs. Non, je trouve que c'est pas inintéressant. La démocratie, par analogie, et l'explication par la manipulation sont le fâcheux raccourci analytique. Ouais, en fait, je trouve que c'est intéressant pour essayer de s'émanciper intellectuellement. Ces quelques remarques n'atténuent en rien le plaisir du lecteur à suivre Timothy Mitchell dans son entreprise de penser ensemble des phénomènes qu'on imagine trop souvent séparés, donnant un sens nouveau au capitalisme carbonifère, de Lewis Mumford. Et prenant au sérieux les qualités physiques des hydrocarbures, l'auteur décrit leur agencement dans le système sociopolitique et international. Extraire et transporter du charbon ne met pas en branle les mêmes dispositifs productifs et logistiques que extraire et transporter du pétrole. Ça, on est d'accord. C'est non seulement la vitesse de circulation des sources d'énergie qui est modifiée, mais aussi l'équilibre entre ruraux et urbains, ouvriers et patrons, colons et colonisés. Donc ça, je suis clairement d'accord avec ça. À tous ceux... À tous ceux qui s'interrogent sur les bouleversements à venir avec la sortie de l'ère de zéro carbure, cette étude de l'impact qu'ont eu les ressources d'énergie carbonée et le passage au charbon au pétrole sur nos sociétés contemporaines apportera de matière à réflexion. Ouais, en vrai, non, il était vraiment cool. Hein. Il a dit branle, t'es con. Non, mais il était hyper intéressant comme article. Bon, il y a des textes que je suis pas forcément convaincu, mais il y a une réflexion à avoir, et même si la finalité de la réflexion n'est pas celle que j'attends, l'hypothèse de base me touche, enfin voilà, me touche dans mes affects, et je trouve qu'il y a une corrélation qui est plutôt intéressante. Ingénierie sociale, la société de consommation a été pensée. Ouais, c'est ça. Non, mais j'aime bien en vrai. Faudrait voir à qui profite cette grève 73. Des producteurs de pétrole organisés par l'OPEP ne sont pas vraiment les ouvriers de ces pays. Ouais, c'est pour ça, voilà, comme tu dis, Horizmatic, donc je maîtrise pas assez le sujet pour commencer à réfléchir là-dessus, mais c'est assez intéressant comme réflexion.